Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM, René Lavergne avec vous pour cette émission Campus Hill Info. Elle est consacrée aujourd'hui à une recherche qui s'élabore actuellement dans nos laboratoires des Hauts-de-France et qui va donner beaucoup de perspectives et beaucoup d'espoir à beaucoup de femmes. Il s'agit d'un projet concernant les personnes qui auraient un cancer du sein. Comment on peut recréer un sein qui correspond à peu près à une réalité qui donc nécessite bien sûr un matériau très particulier qu'on va présenter tout à l'heure, puisque le projet Matisse, c'est de ce projet dont nous allons parler, fait appel à la dentelle, une forme de dentelle, un peu comme la dentelle que nous connaissons à Calais, sauf que là c'est une dentelle très particulière, qui a des propriétés particulières et qui permet donc à générer un sein qui a pratiquement, enfin qui a la forme d'un sein et qui, au travers de la durée, prend sa forme. Voilà, j'ai un peu expliqué comme ça, mais on va venir dans le détail avec nos deux éminents professeurs. Il s'agit de monsieur Pierre-Marie Danzé. Bonjour monsieur Danzé.
Bonjour.
Et puis monsieur donc Philippe Marchetti. Bonjour monsieur Marchetti.
Bonjour.
Alors, ce projet est né d'une rencontre ou d'une idée que vous avez eue comment exactement, monsieur Danzé peut-être?
C'est en fait il y a à peu près 5 ans, nous avons rencontré, enfin je suis assez proche, j'ai un ami proche qui travaille dans une entreprise de dentelle, de filature, pardon. Et je me suis donc, je lui ai parlé de l'intérêt que j'avais à m'appliquer dans ces activités. Et en parallèle, mon confrère, M. Marchetti, était en rapport avec un chirurgien plasticien. Et c'est le fait d'avoir réuni ces personnes qui nous a permis de dégager, en fait, la première idée du sujet.
Alors, c'est un concept très nouveau, complètement imaginé par vous, ou bien vous aviez déjà lu des études qui s'approchaient un petit peu de ce que vous réalisez en ce moment?
Alors, je me permets de répondre. Donc, il existe en effet. Alors, c'est en effet très nouveau. C'est-à-dire que c'est innovant par rapport aux solutions qui sont proposées actuellement aux femmes. Par contre, nous avons actuellement des concurrents qui sont plutôt moins avancés que nous, mais notamment des concurrents allemands ou australiens.
Donc, quand on parle de concurrence, on imagine aussi derrière des brevets qui sont déposés. J'allais dire une guerre de brevets, non? On ne voit pas comme ça?
Non, pas du tout. Non, non, c'est plus des compétiteurs. Ça nous permet de nous motiver plus que... Non, non, il ne s'agit pas d'une guerre de brevets, absolument pas.
Voilà, donc votre projet s'appelle Matisse. Alors, il y a tisse dedans, comme tisser. Et on va parler aussi de ce tissu très particulier qui est à l'origine de l'idée.
En fait, c'est une dentelle qu'on peut trouver dans le commerce d'ailleurs, et qui a des particularités d'être une structure en trois dimensions. Cette structure en trois dimensions a l'avantage de permettre d'établir une structure avec les cellules lipidiques qu'on va mettre pour créer en fait le volume, qui ont l'intérêt de créer un édifice stable et donc qui va permettre d'être revascularisé plus facilement, etc., etc.
Donc il y a une opération qui est à prévoir. Enfin, quand je dis est à prévoir, on n'est pas actuellement en cas de le faire. Hein. On va quand même préciser les choses. Mais cette opération qui est à prévoir, il y a la première étape, donc l'intervention, et ensuite, dans le temps, la structure de ce sein se fixe, se développe, se génère, c'est ça?
Bien sûr. Effectivement. Alors, justement, c'est un des avantages de ce que l'on propose, tout au moins à terme, ce qu'on espère avoir, c'est qu'on aura une ablation, bien entendu, ça qui a toujours existé, bien sûr, puisque le but, c'est de régénérer, de reconstruire. Mais notre intervention pour cette reconstruction sera unique. Il n'y aura pas de nécessité, comme dans d'autres technologies, comme les prothèses mammaires en silicone, par exemple, où il faut revenir vérifier qu'il n'y a pas de lésions, etc., etc. sur le...
Alors, c'est, on va dire, ces seins artificiels voilà, ça fait des années qu'on voit ça, qui sont implantés un peu à tort et à travers, on peut dire aussi. Ce n'est pas sans risque. Et puis, dans le temps, on voit une dénaturation des seins et puis des catastrophes, en fait, psychologiques aussi pour les personnes qui ont fait appel à ces technologies, à ces techniques opératoires. Donc, on est sur un grand progrès et puis un immense espoir.
Tout à fait, oui, en effet. Notre solution est tout à fait différente et se distingue des prothèses classiques, puisque là, il s'agit réellement d'une régénération du sein par les tissus de la femme, si vous voulez. Donc il ne s'agit pas de mettre un élément non naturel. Cette prothèse qui va, je le répète, donc complètement disparaître en à peu près 6 mois, va permettre la restauration par la femme elle-même de son propre sein. Je voulais simplement rajouter par rapport à ce que vous avez dit précédemment, c'est pour pas donner de faux espoirs aux femmes, c'est qu'actuellement nous avons fait la preuve de concept dans différents modèles, mais nous avons encore beaucoup de travail à faire avant de proposer cette solution comme étant une alternative aux solutions de reconstruction mammaire actuelles. C'est-à-dire que nous envisageons aux alentours de 2022, les premiers essais cliniques qui pourront avoir lieu avec notre prothèse.
Oui, c'est-à-dire que pour l'instant, vous faites des expérimentations sur des animaux, c'est ça ?
Alors, nous avons utilisé les modèles qui se rapprochent le plus de l'homme. Faisons beaucoup aussi d'expérimentations au laboratoire pour valider et d'être sûr de la non-toxicité de la prothèse. Lorsque nous aurons l'autorisation, on passera des essais cliniques chez les femmes. Mais uniquement lorsqu'on aura validé toutes les étapes antérieures. Et on a encore actuellement à peu près 4 ans de travail.
Donc 4 ans, ça vous donne une durée pour travailler, élaborer votre projet. Est-ce que la certification, l'homologation, venez de dire, c'est un processus bien connu pour toutes les personnes qui font qui inventent dans ce domaine de la chirurgie et de la reconstruction. C'est quelque chose qui est. Est-ce qu'il y a des étapes? Comment ça fonctionne? C'est un dossier que vous déposez. Après, il y a des gens qui viennent voir physiquement comment ça se passe, voir où vous en êtes au projet. Il y a aussi sur le concept même, est-ce que ça tient la route? Comment ça fonctionne l'homologation?
Tout à fait. Alors, il y a plusieurs étapes dans plusieurs champs. Donc, il y a tout d'abord dans le champ scientifique, pour être sûr. Et donc, nous avons passé cette étape. Il s'agit de l'étape de la preuve de concept, c'est-à-dire de la capacité de refaire croître de la graisse sous cette structure dont on a beaucoup parlé. Et puis maintenant, il y a toutes les étapes réglementaires. Donc on doit s'assurer, on doit faire un dossier extrêmement lourd qu'on donne aux instances réglementaires pour être enfin autorisé à l'essai clinique. Donc nous dépendons d'une réglementation donnée par notre agence réglementaire qui est en l'occurrence ici l'ANSM. Et ce dispositif est un dispositif médical dit de type 3, donc c'est le jargon utilisé si vous voulez. Mais il y a de ce fait-là un dossier extrêmement rigoureux qui va reprendre un peu tous les risques potentiels. On va s'assurer qu'il n'y a aucun risque avant de commencer, de débuter le premier essai chez un être humain.
Alors j'imagine que pour les femmes, d'une manière générale, il y a une certaine impatience à ce que vos technologies, vos techniques réussissent. Est-ce que vous avez déjà des candidats, des candidates plutôt, sur justement le fait de procéder à des expérimentations avec vos implantations?
Alors, en effet, la solution innovante que nous développons suscite un intérêt croissant auprès donc des associations de patientes, et un certain nombre nous ont soutenus dans la région et aussi au niveau français. Là-dessus, on est resté extrêmement clair. Je pense que c'est un soutien parce qu'il y a un besoin, comme je vous l'ai dit. Les techniques actuelles sont tout à fait inefficaces, puisqu'il y a peu de femmes qui bénéficient donc d'une restauration, d'une reconstruction mammaire. Maintenant, pour être clair et avoir un discours très clair, On a encore beaucoup de travail avant de pouvoir le proposer. J'en profite pour dire que nous remercions toutes ces associations et on est aussi maintenant par les réseaux sociaux beaucoup contactés par des femmes dont on comprend donc le besoin et la détresse. Et là, on peut pas leur laisser non plus de faux espoirs. Donc nous travaillons, ça motive toute notre équipe et on est extrêmement motivés parce qu'on sait qu'on va pouvoir aider ces femmes, mais actuellement on ne peut pas leur laisser de faux espoirs.
Est-ce que ce serait une première mondiale en quelque sorte d'ici 4 ans quand vous aurez réalisé les...
Alors c'est toujours difficile de se projeter comme ça dans le futur, hein, comme il y a encore beaucoup d'obstacles et beaucoup de choses à faire. Et nous mettons toute notre énergie pour que ça se fasse le mieux possible et le plus rapidement possible. Néanmoins, c'est clair que ça serait une première, puisque actuellement il n'y a pas de solution de ce type qui a pu être proposé.
Voilà, donc, par ailleurs, qu'on pourrait préciser quand même que si on regarde, on a commencé en 2012, on a un projet d'établir la commercialisation, l'utilisation en 2022, ça fait donc 10 ans. Ça peut sembler à certains très long, mais en fait, au niveau de tout ce qui est recherche et
médicaments,
ça serait une vraie gageure.
Ce sont les laps de temps qui sont habituels. Oui.
Voilà, donc on est sur un projet qui est très précis. Hein. Est-ce que par la suite, d'autres développements sur ce concept peuvent se réaliser avec d'autres parties du corps, par exemple ?
Alors nous y pensons déjà. Nous souhaitons proposer de nouvelles solutions pour la reconstruction de tous les tissus. Ce qu'on appelle des tissus mous, si vous voulez, hein, pour les différencier des os ou des cartilages ou des muscles. Donc c'est tout à fait possible de le proposer dans d'autres applications médicales, par exemple des dissymétries de la face ou au niveau du thorax également. Et puis nous avons un projet très précis pour reconstituer la couche sous-cutanée en cas de brûlure, où ce genre de procédé pourrait tout à fait avoir sa place. Donc ce n'est pas que la reconstruction mammaire après cancer du sein, mais le concept en tout cas peut s'appliquer, peut être une solution innovante dans d'autres applications, à condition que ce soit la régénération, la reconstruction de tissus mous.
Donc on imagine qu'il y aurait un brevet primaire et des brevets secondaires.
Alors le brevet, c'est, ben, je pense que le brevet qui a été déposé par l'université et par l'hôpital, donc concerne en fait toutes les applications. Hein, c'est le brevet de la découverte que l'utilisation donc de cette dentelle telle que vous qui a été décrit va permettre la croissance, la régénération des tissus.
Alors, au CHRU de Lille, hein, oui. Il existe une banque de tissus. À quoi sert cette banque et à qui s'adresse-t-elle ?
Alors, la banque de tissus du CHRU de Lille, dont nous sommes, Pierre-Marie et moi, responsables, donc cette banque de tissus est une banque qui va garder un certain nombre de tissus utilisés pour des greffes. Alors on va voir pour vous donner une idée. À la fois donc nous occupons de peau permettant donc la greffe de peau en cas de brûlure très étendue. Et donc ça fait le lien avec ce que je vous ai dit précédemment. Mais nous avons également donc des cornets. Donc les cornets que nous délivrons pour les chirurgiens, notamment du centre hospitalier de Lille, donc afin de sauver de la cécité un certain nombre de patients. Mais on peut aussi multiplier, nous occupons aussi de tissus tels que les os. Et en partenariat donc avec une banque de tissus belge, les artères et des valves cardiaques.
Alors vous avez parlé de la Belgique, mais est-ce qu'en France, il y a en gros des zones où il y a des centres ressources de tissus comme le vôtre ?
Alors, on peut constater une trentaine de banques de tissus en France, disséminées donc sur tout le territoire. Donc une banque multitissu comme la nôtre. Alors donc il y a des banques multitissu comme la nôtre. Donc mais il y a également des banques qui ne font qu'un seul tissu. Juste donc nous sommes très fiers, notamment au niveau de la peau, donc d'avoir une activité qui est très importante puisque ça nous situe en tout cas dans le trio de tête des banques françaises en termes de greffe de peau, et ce qui est extrêmement nécessaire parce que malheureusement il y a encore beaucoup de brûlures très graves qui nécessitent ce genre d'intervention.
Alors pour le sang par exemple, il y a des structures qui conservent le sang, qui le vendent, enfin qui le font circuler selon les besoins. Les sangs sont incompatibles parfois entre les groupes. Est-ce que pour les tissus c'est la même chose ?
Non, pour les... vas-y.
Non, juste, en tout cas, les tissus dont je viens de parler sont des tissus qui ne sont pas vascularisés. Donc, nous n'avons pas ces problèmes de compatibilité, et ce qui facilite grandement, si vous voulez, la greffe. C'est la différence, vous avez parlé du sang, certes, mais également des organes. Voilà. Mmh. Voilà. Donc, par exemple, on connaît tous l'image de la greffe de rein où il faut trouver donc, le bon receveur, chaque rein a son bon receveur. Pour les tissus, l'étendue des receveurs est plus importante et les caractéristiques ne sont pas des caractéristiques qui conduisent au rejet dans la plupart des cas.
Alors il y a aussi quelque chose dont on parle souvent, mais on a du mal à le concevoir parfois, c'est qu'un tissu qu'on prélève à un endroit, quand on greffe à un autre, il reprend les propriétés du nouveau terrain. Comment ça fonctionne tout ça ? Non ?
Bah écoutez, moi je pense qu'en tant que biologiste cellulaire, ce que vous avez décrit, c'est décrit simplement la plasticité cellulaire. D'accord. Et le rôle de l'environnement. Donc ce que vous avez dit est tout à fait juste, dans la plupart des cas, c'est pas toujours le cas, mais dans la plupart des cas, et en effet, en fonction de l'environnement, le tissu d'origine peut s'adapter à l'environnement et être en fait transformé dans un tissu selon la localisation donc du tissu.
Voilà. Alors j'imagine que d'autres personnes sont évidemment aussi intéressées. C'est ce qu'on appelle les grands brûlés, par exemple.
Oui,
tout à fait.
Comment actuellement on ressent les progrès dans ce domaine ?
Alors, alors les chirurgiens en parleraient beaucoup mieux que nous, mais néanmoins, il y a des améliorations de la prise en charge chez ces patients, grâce notamment à la greffe de tissus cutanés, de ce qu'on appelle les allogreffes cutanées, donc que nous on donne aux chirurgiens. Il y a également des possibilités de reconstruire en dessous le matelas qu'on appelle donc le derme. Et puis il y a également, et c'est là-dessus que notre solution précédente, donc Matisse, pourrait aussi avoir un intérêt, c'est-à-dire reconstruire en fait ce qui est encore en dessous, c'est-à-dire l'hypoderme. Et donc la combinaison donc des traitements que les chirurgiens appellent des traitements sandwich, donc permettent en combinant donc les trois solutions dont je viens de parler, permettent aujourd'hui de restaurer un tissu cutané beaucoup plus facilement donc chez des personnes donc qui sont très gravement brûlées.
Alors en termes de coûts, hein, là vous avez une équipe qui est financée, je suppose qu'il y a à la fois la recherche en France qui vous aide, et puis aussi des laboratoires ou des sociétés qui imaginent les applications de ça et comment elles peuvent aussi développer à grande échelle. Au départ, ça va être très cher ou c'est illusoire ou comment?
Alors, en ce qui concerne le... votre question, donc actuellement, notre idée a été aujourd'hui financée d'abord donc sur effectivement nos fonds de recherche, donc de recherche purement académique, également avec l'aide, et il faut en remercier, de l'hôpital et surtout une aide dès le début de la région qui, plus de deux fois de suite, nous a soutenus avec des sommes tout à fait intéressantes et sans qui on n'aurait jamais pu démontrer cette preuve de concept. Donc pour l'instant, nos aides sont venues par ce biais-là. Ensuite, on a eu un certain nombre de prix. On a gagné quelques prix qui nous ont permis de continuer. Et actuellement, on est toujours à la recherche d'argent pour essayer de faire avancer le plus ce projet, le plus rapidement possible.
Alors, on parle beaucoup en ce moment de crowdfunding. Ouais. Est-ce que ça peut vous intéresser d'avoir des personnes qui s'associent à vos recherches financièrement, voire est-ce que même on peut prendre des parts dans votre société? Et est-ce qu'une région qui vous aide, elle pourrait aussi y trouver un intérêt en ayant une partie de royalties quand le système fonctionnera et sera économiquement viable?
Alors, je pense que on est ouvert à toutes les possibilités. Nous, on y avait pensé dans un premier temps, mais comme on l'a dit au départ, hein, Pierre-Marie et moi, nous sommes avant tout universitaires et hospitaliers. Donc le monde économique et tout ce monde-là, on ne connaît pas très très bien. Donc on a besoin non seulement de l'argent, c'est sûr, mais aussi de conseils. Mm-hmm. Donc c'est pour ça peut-être que le crowdfunding, ça n'a pas été notre premier choix. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas preneur, mais on avait également besoin en fait d'être un peu conseillé dans un monde qu'on ne connaît pas obligatoirement. Notre métier, c'est vraiment d'essayer de concevoir de l'innovation et être près des patients. Mais pour les développements ultérieurs, on a encore besoin de beaucoup d'aide et toutes les aides seront les bienvenues, bien entendu.
Actuellement, c'est essentiellement l'hôpital qui gère cette aide, hein, faut me dire. Voilà.
Alors c'est vrai que de nombreuses femmes peuvent voir un espoir conséquent et même d'une manière globale, vous le disiez tout à l'heure, des associations qui épaulent, qui ont bien sûr elles conscience des besoins collectifs et qui vous soutiennent. Comment ça peut encore se traduire ces soutiens? Est-ce que vous auriez besoin de soutien particulier en ce moment ou dans quelques années?
On a toujours besoin de soutien. C'est quelque chose d'évident. L'argent est vraiment le principal nerf de la guerre, ça c'est certain, et ça nous oblige, entre guillemets, mais ça c'est notre cœur de métier, de répondre à des appels d'offres, de se présenter à X concours de façon à récupérer de l'argent pour pouvoir faire travailler, etc. Le côté... maintenant,
je pense que ce dont on aurait le plus besoin aujourd'hui, c'est cruellement de locaux, parce que notre activité prend de plus en plus d'ampleur. On a oublié de dire que l'autre innovation, c'est de la production de cette dentelle, entre guillemets, par impression 3D. Donc tout ça prend de la place. Mmh. On travaille avec des étudiants qui viennent, et c'est le caractère, je pense que c'est important aussi d'insister dans une radio campus universitaire sur le caractère multidisciplinaire de notre innovation. C'est-à-dire s'il n'y avait pas eu un ingénieur textile, d'une part, des gens impliqués dans l'impression 3D, d'autre part, des médecins, des chirurgiens, et puis des biologistes, cette innovation n'aurait pas vu le jour. C'est vraiment la rencontre de ces disciplines assez éloignées, et non pas cloisonnées, mais c'est ça qui a fait en fait la nouveauté. Alors le problème, c'est que on a tous d'autres activités, hein, on a fait ça en plus, on n'est pas encore réellement visible, et merci de nous donner l'occasion d'augmenter notre visibilité, mais en l'occurrence, si vous voulez, d'un point de vue... universitaire, hospitalier, on n'existe pas en tant que tel, si vous voulez. Donc, ce qui nous manque, clairement, c'est cette visibilité qui se fera à travers des locaux et puis à travers le développement. On continuera à encadrer un certain nombre d'étudiants, donc beaucoup d'étudiants ici de Villeneuve-d'Ascq, de l'Université de Lille, mais également de l'Université de Compiègne. À partir du mois de février, on a un certain nombre d'étudiantes qui viennent de Compiègne, qui ont des connaissances et une formation bien particulière qui vont venir nous aider dans ce domaine-là.
Alors ces locaux, vous les verriez du côté d'Aura Technologies, Aura Santé? Vous n'avez pas d'idée au départ?
C'est où on veut à partir du moment où on a un endroit unique.
Voilà, où tout le monde.
Notre gros problème, c'est d'être éclaté.
Voilà.
D'accord. au cœur quand même voilà, de cette métropole technologique.
Bien entendu, bien entendu. Non, mais tout à fait. Oui, oui, tout à fait.
Voilà, bah, écoutez, on vous souhaite donc une belle réussite, que ça aille le plus vite possible, parce que évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont en attente de choses concrètes qui concernent les personnes humaines. Hein. Et donc, on peut retrouver vos travaux quelque part, on peut en lire des éléments, ou comment on peut vous contacter?
Alors, bah, écoutez, pour nous contacter, je pense que vous pouvez nous envoyer des messages de soutien au niveau de l'hôpital, du centre hospitalier, de la banque de tissus du centre hospitalier régional et universitaire de Lille. Et à ce moment-là, on vous répondra et on vous donnera plus de précisions si vous le souhaitez.
Bien,
avec grand plaisir.
Merci beaucoup, Philippe Marchetti. Merci, Pierre-Marie Danzé. Et bonne continuation. C'était un réel plaisir de vous accueillir.
Réciproque, merci.